Radio Kapi. Oh,
Kapi. Ronéline Tibonera, il y a mine pour les journaux.
Très heureux, je vous retrouve pour cette troisième édition de nos informations sur Radio Kapi. À la une, plus de 40 décontaminateurs venus de Mambasa, Mandina et Nyanya enfilent leur combinaison pour riposter contre la maladie à virus Ebola en Ituri. Pour eux, la bataille doit être remportée coûte que coûte. Les avionophiles en RDC peinent à cerner la différence entre les compagnies aériennes Congo Airways et Air Congo, alors que la dernière domine les ciels depuis maintenant 2 ans, l'autre semble avoir disparu sans que l'on en connaisse les raisons. Dans ce journal, nous serons en Mbujimayi pour parler de la campagne gratuite des réparations de fustules obstétricales en faveur des femmes du Kasaï oriental. Jean-Pierre Loukodji pilote ce projet, c'est lui notre invité. Lutte contre Ebola. 42 décontaminateurs venus des zones de santé de Mambasa, Mandina et Nyanya s'engagent à travailler pour freiner la propagation de la maladie dans les territoires de Mambasa. Vous avez compris, nous sommes en Ituri. C'est après une formation de 2 jours relative aux enterrements dignes et sécurisés. Cependant, l'adhésion de la communauté reste un défi à relever pour la réussite de leur mission. Martial Kizabiamungu pour le reportage.
Ces prestateurs hygiéniques dont 9 femmes ont été formées à Mambasa du 30 juillet au 1er août au mécanisme de désinfection d'un site ou d'un cadavre contaminé par la maladie à virus Ebola. Objectif, renforcer la riposte contre cette maladie hémorragique. Ces hommes et femmes ont été outillés également aux tricks et astuces pour une communication efficace et susceptible d'obtenir l'adhésion communautaire. Selon les organisateurs venus du pilier communication sur le risque et engagement communautaire au sein de la coordination de la riposte, cette démarche vise à réduire les cas de contamination au sein des communautés dans les zones de santé affectées par cette épidémie. L'un des contaminateurs a déclaré, je cite, « Nous sommes maintenant capables de bien travailler sur le terrain en toute sécurité sans nous exposer ni exposer d'autres personnes à la maladie d'Ebola. » Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Dans ce journal, il est aussi question des défis à relever concernant Ebola. Dans le Nord Kivu, les actes de résistance contre les équipes de riposte se multiplient à Butembo et à Beni, alors que l'épidémie continue de progresser dans cette partie de la province. Ces équipes sont confrontées au refus d'évacuation des patients, à l'opposition aux enterrements sécurisés, ainsi qu'à des incendies des structures de santé. Autant d'incidents qui rappellent la 10e épidémie d'Ebola entre 2018 et 2020 lorsque le rumeur et la désinformation étaient fortement entravés ou avaient alors fortement entravé la riposte sanitaire dans ces 2 villes. Les explications avec Martial Papimoukeba.
À Butembo, une équipe chargée d'un enterrement sécurisé s'est heurtée à la résistance d'habitants du quartier Kihala le vendredi 31 juillet. Ces derniers ont exigé l'ouverture du cercueil en fait de vérifier l'identité du défunt soupçonné d'être mort d'Ebola. Une vidéo devenue virale montre plusieurs jeunes manipulant les corps. Samedi 1er août, à Beni cette fois, des habitants du quartier cité belge se sont opposés au transfert d'une patiente suspectée d'Ebola vers un centre des traitements. L'ambulance a été caillassée et la police est intervenue. Entre mardi et jeudi de cette semaine, les centres hospitaliers Krinovich et les postes de santé Zawadi avaient été incendiés à Butembo. Selon des sources locales, ces attaques sont alimentées par des rumeurs visant les équipes de riposte. Le 11 juillet déjà, les centres de traitement Ebola de Katwa avaient été la cible d'une tentative d'attaque. Selon les autorités sanitaires, Butembo demeure l'épidémie centre de la 17e épidémie d'Ebola au Nord Kivu, avec 220 cas confirmés sur les 325 recensés dans la province au 25 juillet. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Papimoukeba. Information plus réjouissante. Plus de 20 personnes, parmi lesquelles des professionnels de santé, ont été primés le week-end à Kinshasa pour leur contribution à la prise en charge des cancers gynécologiques en RDC. Elles ont reçu des distinctions lors de la première édition de la soirée des galas intitulée Prix d'excellence Boigna DRC à l'initiative du club de gynécologie, d'obstétrique et d'autres partenaires. Cette activité visait à encourager la lutte contre les cancers dans les pays. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Placé sous le thème « Célébrer les héros de l'ombre, ensemble vers une santé équitable et un avenir sans cancer », cette soirée a constitué un cadre pour honorer tout ce qui œuvre à la promotion de la santé et à la lutte contre les cancers en RDC, comme l'a indiqué l'initiateur du programme Prix d'excellence Boigna, Dr Ali Machala.
Ce qui compte, c'est pas le trophée, c'est pas le certificat qu'on remet. Ce qui compte vraiment, c'est cette reconnaissance aux yeux de tout le monde. Ben écoutez, cette personne se sent honorée. Elle fait 20 ans, elle fait 25 ans, elle fait 30 ans dans la lutte.
À cette occasion, l'un des lauréats, Dr Philippe Chimpi, a encouragé chacun à s'impliquer dans la riposte contre les maladies cancéreuses et dans l'amélioration de leur prise en charge à travers les pays.
Pour les patients qui ont un cancer, qu'on facilite sa prise en charge. Aller à ce que le cancer puisse être pris en charge totalement et gratuitement dans notre pays.
Pour sa part, le secrétaire général à la santé publique a annoncé la construction d'un centre national de lutte contre les cancers afin de sauver des vies.
On doit arriver à construire un centre national de lutte contre les cancers.
Le directeur du centre national de lutte contre les cancers, Docteur Bienvenu Les Boisés regrette que la majorité des patients consultent à un stade avancé de la maladie, moment où les options thérapeutiques curatives sont extrêmement limitées.
Nous allons parler des avions. Autre nouvelle avec cette question, Air Congo et Congo Airways, deux compagnies nationales, évoluent-elles pour un même ciel congolais? En tout cas, depuis peu, le ciel congolais est traversé par une singularité aussi économique et politique, la coexistence des deux compagnies aériennes, Air Congo et Congo Airways, toutes deux revendiquées comme appartenant à l'État congolais. Face à cette situation, de nombreux Congolais s'interrogent sur les rôles, les périmètres d'action et la viabilité de ces deux sociétés publiques. Pour éclairer le public sur cette configuration inédite, Radio Capi lance une série de reportages consacrés à l'exploitation actuelle de ces deux compagnies. Ces premiers volets s'intéressent à la ligne des démarcations réelles entre Air Congo et Congo Airways. Askan Zigbia Tayoro nous livre les premiers éléments de réponse.
Air Congo, né en décembre 2024 et Congo Airways, créé en 2014, cohabitent, suscitant interrogations sur leurs rôles respectifs. D'aucuns ne doutent qu'en ces jours, Air Congo est la nouvelle compagnie porte-drapeau national. Dans son actionnariat, l'État détient 51%, Ethiopian Airlines 49%. Elle dessert des lignes régionales et depuis le 1er juillet 2026, relie Kinshasa-Bruxelles, un retour dans le ciel européen après 25 ans d'absence. Par ailleurs, Congo Airways, elle incarne l'ancienne génération. D'après le ministère des Transports, l'État y est principal actionnaire avec 40% aux côtés de la Caisse nationale de sécurité sociale, Checamine et Régie des voies aériennes RVA. Mais actuellement, selon les témoignages de son personnel, la compagnie aérienne Congo Airways est clouée au sol. Sa situation est très critique, bien qu'un plan de relance ait été lancé pour tenter de la sauver. Une reprise timide en 2025 n'a pas dissipé les doutes. La ligne de démarcation est réelle, pas vraiment une concurrence, plutôt une succession. Air Congo bénéficie du savoir-faire d'Ethiopian Airlines pour éviter les erreurs du passé. Congo Airways, sans licence pour l'Europe, semble condamné à disparaître d'après certains analystes du domaine. En clair, l'État mise sur le nouveau fleuron, tandis que la sienne compagnie navigue en eau trouble. L'avenir d'Air Congo s'écrit, celui du Congo Airways semble s'effacer au fil du temps.
Merci de suivre Radio Capi en Bujimaï où il est 9h passé de 9 minutes. Exode massif ou simple évasion, en tout cas, ces réalités sont perceptibles du côté du Grand Kassai et du Grand Bandundu. Plusieurs habitants de ces deux provinces quittent Mbujimayi et Ngandajika pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga ou Kolwezi dans le Lualaba. Réunification familiale, recherche du bien-être ou poursuite des études, les motivations sont diverses, mais sur le parking, les conditions de voyage restent difficiles. La mairie affirme contrôler systématiquement les déplacements effectués avec des enfants. Esther Ndalafina signe ce reportage.
Pendant la saison sèche, des véhicules privés venus de Lubumbashi et Kolwezi acheminent des produits manufacturés vers Mbujimayi et Ngandajika. Au retour, ils transportent de nombreux passagers du Grand Bandundu et du Grand Kasai déterminés à rejoindre le Haut-Katanga par la route. Mbujimayi demeure le passage obligé de ces convois, mais les conditions de voyage sont jugées déplorables. Madeleine Zeba, mère de 6 enfants, quitte son territoire natal de Katanda pour rejoindre son mari à Lubumbashi. Elle affirme que la vie est devenue intenable.
Si tu as un peu d'argent, tu peux te débrouiller et manger avec les enfants. Ce n'est pas le cas ici.
Un autre voyageur dit partir pour améliorer ses conditions de vie.
Partir dans les mines. Actuellement, il n'y a plus de vie. Je ne parviens pas à entreprendre là-bas. Je vais rentrer ici.
Anton Alula, venu de Lufira, évoque un exode massif.
Notre village est resté vide. C'est du côté de Lufira. Près des 10 villages se sont vidés.
Swana Swana, jeune étudiant, venu de Kikwit se rend à Lubumbashi pour poursuivre ses études.
Je pars étudier là-bas. Mon grand frère, il m'appelle aussi d'aller étudier là-bas.
Ces déplacements se font dans des conditions précaires. Des hommes et des jeunes garçons voyagent parfois sur les toits des véhicules qui transportent plus de 100 personnes, femmes et enfants compris. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Merci Esther Ndalafina. Je vais prendre André Katendengala Mouloumé pour nous parler d'une autre forme d'évasion cette fois. C'est la suite du dossier concernant la fuite de près d'une cinquantaine de détenus de la prison de Luebo. Nous sommes le week-end. La nouvelle société civile congolaise de ces territoires du Kasaï tire la sonnette d'alarme. Ces fugitifs constituent une menace pour la communauté, indique cette structure dans un plaidoyer adressé au gouverneur de province. Et ce n'est pas tout. L'organisation réclame également une enquête indépendante pour établir les responsabilités et retrouver les évadés, réhabiliter la prison centrale de Luebo et renforcer les dispositifs de sécurité. André Katende.
Selon l'organisation de la nouvelle société civile congolaise, les fugitifs ont brisé les cadenas extérieurs, forcé une porte en tôle, puis cassé une porte en bois avant de prendre la fuite. La prison comptait 50 détenus. Les deux femmes incarcérées dans un autre bâtiment plus sécurisé ne se sont pas évadées. La nouvelle société civile congolaise attribue cette évasion au mauvais état des infrastructures de la prison et réclame une enquête indépendante pour établir les responsabilités. Jusqu'à présent, aucun évadé n'a été retrouvé. L'organisation dénonce aussi les dysfonctionnements de la justice à Luebo. Elle affirme que le tribunal de grande instance et le tribunal de paix siègent rarement faute de magistrats. La société civile demande enfin la réhabilitation urgente de la prison, l'arrestation des évadés, l'affectation des nouveaux magistrats à Luebo et les renforcements de la sécurité pour éviter les évasions qui sont récurrentes à cette prison. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Parlons numérique à présent. Le gouvernement congolais a adopté un nouvel arrêté interministériel fixant les droits, taxes et redevances applicables aux activités de ce secteur. Signé le 28 juillet dernier par le ministre de l'économie numérique et des finances, ce texte vise à renforcer l'encadrement des services numériques et à améliorer la régulation d'un secteur en pleine croissance. Reportage de Vanessa Kongolo, rendu par Christian Makasinga.
Selon cet arrêté, les plateformes financières, notamment le banque en ligne, les applications fintech, devront désormais payer 5 000 $ américains pour obtenir une autorisation d'exploitation. Les plateformes de transport, des réservations de voyages, d'hébergement touristique, les places de marché en ligne ainsi que le boutique d'applications seront soumises à des frais de 3 000 $ pour les opérateurs locaux et de 10 000 $ pour les acteurs étrangers. Les textes instaurent également un régime d'agrément pour plusieurs services numériques. Les développeurs applications issues des start-up congolaises bénéficieront toutefois d'un tarif préférentiel fixé à 100 $, une mesure destinée à soutenir l'innovation locale. Le centre des données devront, quant à eux, s'acquitter de frais allant de 25 000 à 7 500 $ américains, selon leur niveau de certification. L'arrêté prévoit également des sanctions. Les opérateurs exerçant sans autorisation ou sans agrément risquent des amendes pouvant atteindre jusqu'à 200% de la valeur du titre exigé. À travers cette réforme, les autorités congolaises attendent mieux structurer l'écosystème numérique national tout en favorisant les investissements dans les infrastructures technologiques.
Actualité internationale. En proie chaque été à des incendies à raison des canicules fréquentes et de la sécheresse, la Grèce fait actuellement face à un feu de forêt à 70 km au nord-ouest d'Athènes dans des conditions météorologiques extrêmes et des vents atteignant plus de 100 km/h, a indiqué dimanche le premier ministre Kyriakos Mitsotakis. La coalition de deux hélicoptères qui combattaient un incendie dans cette région a fait 2 morts dans les environs des Psata, indique de sources du côté de la Grèce.
L'invité.
Vous l'avez certainement entendu dans les titres. La campagne de réparation gratuite des fistules obstétricales se poursuit en Mbujimayi au centre hospitalier presbytérien dans le pavillon fistule à Cluny. C'est une structure spécialisée dans la prise en charge de cette pathologie au Kasaï oriental. Plus de 20 femmes ont déjà été opérées depuis le début de l'opération. La campagne s'achève à la fin du mois d'août. Docteur Jean-Pierre Loukodji appelle toutes les femmes vivant avec une fistule obstétricale à se présenter pour une prise en charge, même après la clôture de cette campagne de réparation gratuite. Docteur Jean-Pierre Loukodji s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, docteur Jean-Pierre Loukodji.
Bonjour, madame journaliste Ndalafina.
Oui, docteur Jean-Pierre Loukodji, vous êtes déjà en pleine campagne de réparation de fistules. Oui. Comment est-ce que cette campagne se déroule ici chez vous?
Merci beaucoup pour la meilleure question. Je vous informe d'abord d'avance que ce n'est pas la première campagne. C'est depuis 2020 que nous organisons les campagnes chaque fois. Ce n'est pas l'hôpital qui organise, sont des partenaires. Parce que nous avons un partenaire, c'est INFP. Et INFP peut nous amener d'autres partenaires comme Fondation Vodacom. Cette année, nous avons déjà fait la première campagne qui a pris fin au mois de mai. Fondation Vodacom a jugé bon qu'on puisse continuer afin qu'on opère 50 cas qui restaient. Parce qu'il y a mode campagne et puis mode routine ici chez nous. Mais comment la campagne se déroule? D'abord, je commence avec mode routine. Fistule à clinique Kasaï Oriental, c'est moi-même le point focal. Je suis là pour la réparation des cas de fistule obstétricale, même de fistule traumatique, fistule congénitale aussi. Chaque fois quand il y a des cas, en mode routine, les cas viennent, on consulte et puis nous planifions, nous opérons. Mais en mode campagne, comme nous sommes maintenant en mode campagne, les cas viennent. Nous avons un système de triage. Les malades qui sont venus juste pour les cas de fistule sont orientés parce que ça ne vaut pas la peine de poser tant de questions. Par l'odeur, le personnel sont déjà rodés. Le malade sera consulté par moi-même et puis planifié avec mon équipe afin qu'on puisse opérer ces cas. Alors, en mode campagne, comme nous opérons, je vous dis que l'opération est gratuite, la prise en charge elle est gratuite aussi, les médicaments tout nous donnons parce que c'est un problème de fistule, on ne peut pas laisser ou abandonner les dames, c'est comme ça que nous opérons. Vous-même vous avez vu, il y a beaucoup de cas, quand nous opérons ces 50, les restes des cas nous allons basculer ça dans le mode routine, c'est comme ça que la campagne s'est déroulée.
Quelles sont les modalités de prise en charge?
Modalités de prise en charge, une fois que le cas est venu, nous avons consulté, il y a des cas que nous allons hospitaliser. Une fois hospitalisé, nous allons programmer les jours où il faut opérer. Une fois opéré, il y a des fistules qui font 10 jours. Il y a des fistules qui peuvent aller jusqu'à 1 mois. D'autres même font 2 mois de prise en charge parce que si c'est une fistule recto-vaginale, dont le matière fécale passe par même le vagin. Mais modalité, c'est tout cas de fistule obstétricale, même fistule congénitale, fistule traumatique. Nous prenons en charge dès que le cas est confirmé.
Quels sont les avantages de la campagne pour les patientes? Hein?
Pour les patientes, oui. Ça veut dire quoi? Les partenaires prend soin de l'appui nutritionnel, de médicaments, des kits de réinsertion. Donc, ça veut dire quoi? Une patiente que nous avons opérée gratuitement, il y a les médicaments, il y a tout qu'on donne par le partenaire. Dès qu'elle est guérie, il y a le kit de réinsertion. Donc, on donne l'argent, une somme quelconque. On lui donne pour commencer. Si elle faisait ses commerces, elle va commencer ses commerces. Celle qui ne faisait rien, elle paie juste avec cet argent faire ses commerces ou faire d'autres activités qu'elle ne faisait pas. Parce que vous voyez, la plupart sont des dames déjà renvoyées par leur mari, abandonnées par la famille. Avec cet argent, l'équipe de réinsertion, la dame doit rentrer faire ses activités afin qu'elle puisse se retrouver. Et dans l'équipe d'unité aussi, il y a des pagnes, il y a un peu de vêtements qu'on donne à chaque femme guérie.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Merci, ça c'est une belle question. Les difficultés sont nombreuses. Imaginez, c'est depuis 2020 que nous sommes ici au Kasaï. Nous avons installé Fistula Clinique pour aider les dames. Parce que jadis, les dames se donnaient la mort. D'autres étaient réputées des histoires. Elle a peut-être accouché avec d'autres hommes, des choses comme ça. Donc c'était une catégorie de femmes marginalisées. Mais dès que nous avons installé, il y a des dames qui nous appellent, des milliers très vite. Donc la difficulté, nous manquons le moyen de transport, nous manquons les kits informatiques pour l'archivage. Nous sommes là, si nous manquons les partenaires, c'est fini. Donc c'est difficile qu'on fasse la réparation. Raison pour laquelle nous lançons aussi un cri d'alarme aux gens de bonne volonté, surtout au gouvernement. N'est-ce pas, de voir aussi ça. Il y a aussi l'aspect des bâtiments. Nous n'avons pas de salle. Nous avons cette bonne volonté d'aider nos mamans, d'aider nos sœurs, mais nous n'avons pas un endroit. Le gouvernement peut quand même nous construire un bâtiment digne. Je peux aussi demander à notre première dame, notre maman, de pouvoir quand même faire quelque chose au Kassai. Juste nous construire, on ne demande pas beaucoup de choses. Nous construire un bâtiment ici pour la réparation de fistules. Et nous serons quand même joyeux.
Docteur Jean-Pierre Lukoji, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame Dalafina, d'être chez moi.
20 minutes aux ont suffi pour vous informer. Merci à Lievin Mbuinga pour la coordination. René Linti Bonera, j'étais à la présentation. Alain Goy était à la partie technique.